Pluriel Gay.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes bien de retour, vous êtes bien de retour sur l'émission Pluriel Gay. Donc, émission du 26 octobre. Donc, je n'ai pas d'invité. Je suis seul une nouvelle fois face à mon micro, livré à moi-même. Donc, j'ai pensé qu'il serait intéressant de rediffuser une émission que nous avions réalisée il y a quelques années déjà, mais qui est toujours d'actualité, avec Antoine Didier, qui est l'auteur donc de livre Dissidence Rose, qui est publié aux éditions Chomarat. Donc, il s'agissait de 2 heures d'émission historique consacrée exclusivement à Lyon LGBT dans les années 70, qui est aussi le thème donc du livre Dissidence Rose, que ce soit sous les aspects militants ou festifs, ou commerçants, associatifs, etc. C'est parti pour la première partie.
Pluriel Gay. Une émission présentée par Gérald.
Antoine, je t'ai invité ce soir parce qu'on va parler de Lyon dans les années 70, de Lyon, bon, gay évidemment.
Bonsoir.
Voilà, oui. Bonsoir Antoine.
Les années 70 sont un moment particulier puisque ça correspond à la décennie, on dirait, de libération sexuelle à la suite des transformations de 1968, des transformations de la sexualité, de ce qu'on appelle, les historiens et les sociologues appellent, les années 68. Donc un ensemble de transformations de la sexualité, et en même temps on est avant 1981 et 1982, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, puisqu'il faut rappeler que c'est avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République qu'a lieu en 1981 et 1982 la dépénalisation de l'homosexualité, c'est-à-dire la suppression d'un certain nombre de pénalisations de l'homosexualité, notamment par des articles du code pénal, par des centres de police, par une répression policière. Et donc cette charnière de 1981-1982 marque aussi une seconde borne chronologique, et l'idée c'était de voir comment ça se passe pour la vie gay entre ces deux bornes, à la fois dans une période de transformation, mais qui reste quand même une période de répression et de pénalisation de l'homosexualité. Et l'idée, en s'intéressant aux bars, en s'intéressant aux boîtes et en s'intéressant au militantisme, c'était de voir que ces années 1970 sont quand même des années un peu particulières, et notamment en ce qui concerne les boîtes ou les bars, on voit qu'il y a une transformation puisque des lieux spécifiques apparaissent, et à Lyon il y a 2 lieux mythiques, à la fois la petite taverne et à la fois le cercle, qui sont les 2 institutions, on pourrait dire, de ces années 70, à la fois parce qu'elles apparaissent très tôt, dès 1969 et dès 1971, et puis parce qu'elles vont durer très très longtemps, puisque le cercle clôt sa vie à la fin des années 70, au début des années 80, entre 1979 et 1980, ça s'étiole petit à petit. Et puis la petite taverne, elle, ferme ses portes seulement au milieu des années 90, en 1996, puis après une seconde réouverture en 1998. Donc c'est peu dire que c'est un lieu mythique, puisqu'il a quand même été un lieu phare de la vie gay pendant une bonne trentaine d'années. Et donc cette petite taverne ouvre ses portes en octobre 1971 et devient un lieu phare de la vie gay lyonnaise, à la fois parce que c'est un lieu assez original, avec une ambiance assez particulière. C'est un lieu aussi unique, puisqu'il n'y a pas tant de bars et de boîtes gays à l'époque. Et puis parce que autour de la petite taverne se forme finalement, peut-être comme dans tous les autres bars ou toutes les autres boîtes, se forme une communauté. Mais on sait que dans les vies gays, les communautés autour des bars et des boîtes sont plus importantes que pour d'autres vies, puisque c'est un des rares lieux où les personnes peuvent vivre leur sexualité, rencontrer d'autres personnes. Donc c'est pour ça que la petite taverne va marquer beaucoup de monde et va marquer les esprits, va être un lieu très très fréquenté et très très apprécié durant toutes ces années 70. Pour la décrire en quelques mots, c'est un bar-boîte avec des spectacles, donc de travestis, de transformistes, énormément de musique, et qui en fait un lieu très très apprécié durant ces années-là. Une ambiance, on pourrait dire aujourd'hui, peut-être un peu folle, que j'ai rencontré une bonne vingtaine de personnes que l'on décrit comme justement un lieu avec une ambiance assez folle, où on s'amuse beaucoup, où l'on rit beaucoup, où l'on n'hésite pas à se travestir, où on n'hésite pas à se déguiser, où on n'hésite pas à faire des spectacles comiques. Alors il y a des groupes au nom évocateur qui viennent, on peut penser par exemple aux Zinzadou Show, enfin tout un ensemble de groupes de transformistes qui sillonnent la France. Le nom peut-être de chez Michou évoque quelque chose aux Parisiens, une boîte très célèbre. Bah, c'est un peu le même style de choses qu'on voit à la Petite Taverne, puisque les spectacles de chez Michou notamment tournent à la Petite Taverne, qui accueille des groupes aussi qui passent dans un certain nombre de boîtes de France. On peut penser aussi au groupe Les Aristocrates, qui ont fait un lieu assez particulier, très caractéristique, à l'opposé d'autres lieux qui ont une ambiance beaucoup plus cuir et qui méprisent un peu cette ambiance folle là. Moi j'ai pu retrouver des photos de soirées à la Petite Taverne, notamment des soirées, par exemple des soirées Mardi Gras ou des soirées notamment pour le Nouvel An ou pour chaque anniversaire de la Petite Taverne, où les gâteaux s'empilent, qui a fait un lieu avec un vrai goût de la fête, un vrai sens de l'amusement, une ambiance festive où on rit, où on s'amuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui parlent de la Petite Taverne en parlent avec une certaine nostalgie et un regard ému. Et ce qui fait que oui, ce lieu a vraiment été un lieu phare des années 70 et du début des années 80 aussi, parce que je crois que même que Gérald, l'animateur de cette émission, a fréquenté la Petite Taverne au début des années 80.
Oui, merci de préciser au début des années 80, parce qu'en 70, j'étais encore trop jeune dans les années 70. J'ai connu la Petite Taverne en 81 exactement, à une époque où c'était encore, elle était en pleine, elle était au sommet de sa gloire. Avec tout ce que tu as décrit, tout ce qui est lié donc au spectacle, etc. Il y avait donc effectivement le spectacle de travesti qui était un peu le clou de la soirée, mais pas seulement. Il y avait aussi des choses qui étaient très amusantes, comme la danse du tapis. Alors la danse du tapis, c'est un truc un peu...
On pourrait peut-être décrire ce qu'était la danse du tapis.
La danse du tapis, en fait, chacun était là avec son tapis, enfin un morceau de moquette qui symbolisait un tapis, et puis la personne qui détenait le tapis en question, en fait, devait choisir dans la salle, dans la boîte, quelqu'un qui lui plaisait, lui présenter le tapis, on s'asseyait sur le tapis et on s'embrassait devant tout le monde. Voilà. Et la personne qui avait été choisie, à son tour, récupérait le tapis et allait donc choisir d'autres personnes, etc. etc. Et quand même, on voit que c'était la bonne franquette. Et puis c'est vrai que le patron lui-même était un mec qui était très présent, en quelque sorte, avec un contact direct avec la clientèle. Il prenait le micro, il faisait de l'animation, etc. Donc évidemment, c'était...
Voilà, moi, ce qui en ressortait avec les personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'il y avait une réelle ambiance typique et caractéristique de la Petite Taverne, à la fois par les spectacles, à la fois par le rire, à la fois par toute la mise en scène que faisait Jean-Claude, le patron de la Petite Taverne, et qui en faisait un lieu vraiment à part à Lyon.
Le Miller, c'est aussi une des boîtes qui est bien ancrée, qui était bien ancrée dans le paysage lyonnais de l'époque. C'est une boîte encore plus ancienne que la Petite Taverne, 1965. C'est un peu différent de Miller parce que c'était une boîte, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de danse du tapis, tout ça, c'était plus un club, quoi. Mais c'est vrai que c'est deux discothèques qui ont énormément marqué, je dirais, l'époque, les années 70. Un troisième lieu aussi emblématique, c'est le Cercle. Alors le Cercle, ça, c'est vraiment une aventure assez extraordinaire, un peu exceptionnelle.
Oh, combien différent de la Taverne d'ailleurs, parce que les deux, moi j'ai employé le terme un peu d'institution, dans le sens où c'était des voilà, lieux, on va dire, emblématiques de cette décennie. Et autant la Petite Taverne est le lieu, on va dire, un lieu assez folle, sans que le terme soit péjoratif, avec une certaine flamboyance, autant le Cercle est dans un genre tout à fait différent. Lui, il ouvre un peu plus tôt, il commence en 1969, dans le quartier de Saint-Georges à Lyon, juste en dessous de Saint-Jean, qui n'est pas du tout le Saint-Georges qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des entreprises de réhabilitation, de transformation du quartier. À l'époque, c'est vraiment un quartier marginal dans Lyon. peuplé par des populations ouvrières, donc un quartier pas très fréquenté ni recommandable. Et c'est là que, en 1969, Bernard, qui vient de la bourgeoisie, on va dire stéphanoise, décide d'ouvrir un lieu gay dans une espèce de succession de caves, et il en fait un espèce de cercle, un lieu assez bizarre. Il fait venir des meubles de famille, en même temps le lieu est en très mauvais état, et on y discute, on a un côté très pompeux, voire snob, un peu cultureux. En même temps, on écoute de la musique. Alors, on en écoutera peut-être des extraits tout à l'heure, mais des choses assez improbables, telles que Mélina Mercouri, Zara Leander ou Billie Holiday. On discute, on est très culturé. Puis en même temps, on peut danser dans les caves. Et c'est dans ces mêmes caves qu'apparaissent les premières backrooms de Lyon. Et puis ce qui est amusant au cercle, c'est que le lieu est déguisé sous forme d'association loi 1901, ce qui permet d'éviter de payer un certain nombre de choses, notamment les taxes. Et l'association se dissimule sous des noms à mourir de rire aujourd'hui, mais qui sont assez frappants, puisque le cercle s'appelle tantôt le cercle Lautréamont, le cercle Oscar Wilde, le cercle Marcel Proust, le cercle Tennessee Williams, le cercle Villa Lobos. Et puis au gré des ennuis avec la police, et le cercle change de nom, donc prend ses différents noms à la suite, et même change de local, puisque le propriétaire possède à la fois le 3 rue Saint-Georges et le 4 rue Saint-Georges. Et quand la police ferme le lieu au 3, ben dans la nuit, il transfère les meubles et va au 4, dans une autre cave.
Le propriétaire avait contourné un petit peu, était un peu dans l'illégalité, parce qu'en fait, il avait monté le cercle sous forme d'association loi 1901, donc ne pouvait pas faire de bénéfices, ne pouvait pas vendre de l'alcool, etc. Mais en fait, il faisait tout ça, c'était un établissement commercial, en fait.
J'ai rencontré le propriétaire, il m'a raconté servir des whisky coca dans le déguisant sous le nom de cocktail un homme perdu ou une fille perdue. Comme c'est une association, les gens étaient censés avoir des cartes de membres et tenaient très mal cette comptabilité là. Lui-même faisait des bénéfices, qui bien qu'il a eu en fouillant dans les archives de la préfecture de Lyon, où on retrouve en fait les dossiers des différentes associations. On peut retrouver des courriers des services fiscaux qui au moment décident de mettre le nez, sans doute par dénonciation d'ailleurs d'autres collègues de Bernard, qui mettent le nez dans les affaire de ce patron qui tient quand même une drôle d'association. Mais surtout, ce qui est important pour le cercle, c'est aussi une ambiance tout à fait différente, une ambiance à la fois snob, à la fois cultureuse, et en même temps une ambiance qui est aussi sexuelle, puisque c'est dans une des caves, comme je disais, qu'il y a la première backroom. Quelque chose qu'on a peut-être même du mal à imaginer aujourd'hui, qui en fait un lieu à la fois entre le peut-être le cercle anglais, le cercle de vieux monsieur distingué. Donc oui, c'est un lieu lui aussi atypique, vraiment une institution. Et autant par exemple les gens qui fréquentaient plutôt le cercle me parlaient avec mépris de la petite taverne en disant c'est un lieu de folle, de bonne coiffeuse, selon les préjugés qui courent toujours. Et autant les gens de la petite taverne me décrivaient le cercle un peu en me disant c'est un lieu, c'était une boîte à cul, c'était pas du tout ce qu'on aimait nous. Donc voilà, c'est deux lieux très marqués, très différents, mais ça n'empêche que certains d'ailleurs passent de l'un à l'autre, sa soirée au cercle et finit sa petite taverne ou inversement.
Il y avait aussi quand même quelques bars, le Pré-au-Clair, qui était tenu par la même personne que le cercle.
Parce que Bernard, qui ouvre le cercle, ensuite ouvre une bonne dizaine de lieux gays entre, on va dire, le début des années 70 et le milieu des années 80, la fin des années 80, dont voilà, le Pré-au-Clair, il y a eu aussi le Nuage, toujours à Saint-Georges. Il y a eu
plusieurs lieux, plus ou moins éphémères, quoi. Enfin, certains ont duré, de moins. L'épibar, c'est peut-être celui qui a duré le plus longtemps. C'était en fait des petits lieux. La petite taverne, c'était petit. Comme tu l'as expliqué, à l'origine, c'est pas prévu pour être une discothèque. Alors, il y avait la piste à l'entrée, à gauche, il y avait le bar. Le DJ, la console du DJ était au bar également. Et puis ensuite, il y avait un escalier assez étroit pour monter à l'étage. On posait le vestiaire. Et il y avait dans la salle de danse, sur la piste de danse, qui était donc au rez-de-chaussée à côté du bar, il y avait une petite estrade, on peut appeler ça comme ça, pour les spectacles. Donc les spectacles cabaret étaient vraiment faits dans une promiscuité extrême. Et les artistes se changeaient à l'étage, descendaient par l'escalier 3. Alors comme certains avaient des hauts talons, c'était au risque et péril de leur vie. Et arrivaient sur une scène qui était quand même assez étroite, difficile pour une chorégraphie. Mais c'était des spectacles toujours flamboyants, effectivement. Ça avait un côté très très michou quand même, c'est vrai. Et puis à côté de ça, donc la piste de danse était relativement petite. Bah, ça veut dire qu'on était comme des sardines.
Et qu'on devait danser serré, c'est ça que t'entends.
Ah ouais, tout était très 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 serré à cette époque-là. Minor, c'était pareil, et les bars identiques. C'était toujours plein, quoi. Toujours plein.
C'est important de on peut se poser la question, par exemple, Lyon, qui aurait pas forcément beaucoup de sens de dire, par exemple, Lyon dans les années 70, c'était une ville qui est friendly, ce qu'aujourd'hui, par exemple, des magazines ça s'amusent à faire. Et ce qu'il faut souligner, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que Lyon dans les années 70, donc c'est une ville avec une grosse ville de province. Donc de province, ça veut dire qu'il y a quand même un certain conservatisme, certaines. C'est pas si grand que ça, donc les gens font attention. Et en même temps, c'est une grosse ville de province, c'est-à-dire que à Lyon viennent des gens de toutes les petites villes alentour où il n'y a pas forcément de lieu de rencontre, ou en tout cas c'est. S'il y en a un, ça peut être dangereux le fréquenter parce qu'on peut être aisément reconnu par quelqu'un qu'on connaît, voire on peut se faire casser la gueule en y allant ou en y sortant. Et donc Lyon attire des gens qui viennent à la fois de la Loire, à la fois de l'Isère, ou même de petits villages du Rhône, et qui sortent à Lyon. Donc ça fait quand même une population assez importante. De même que des Lyonnais, eux, sortent à Paris parce qu'ils trouvent la vie gay lyonnaise trop provinciale. Des gens d'un certain nombre de villages ou de petites villes viennent à Lyon, ce qui fait quand même du monde.
La petite taverne arrivait, on sonnait, il y avait quelqu'un, un vasistas, un petit truc là qui s'ouvrait, un petit vasistas grillagé qui s'ouvrait avec une paire d'yeux qui te regardait, qui déterminait si tu pouvais rentrer ou pas. C'était très mystérieux, tu vois. À Paris, la rue Sainte-Anne, c'est comme ça. Mais à Paris, on est passé de la rue Sainte-Anne presque sans transition au Marais. Alors qu'à Lyon, il y a eu une longue période avant que la ville s'adapte à un nouveau système, celui des années 90, des bars ouverts, des terrasses, etc. qu'on n'a pas vu du tout dans les années 80.
Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au thé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'ombre les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aurore. Quand le soleil je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans les jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors. Ils ont au fond des yeux les rêves d'un. Les guerres qu'ils font encore, quand l'aube les voit marcher par deux. Et moi je viens bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean. Je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. De l'aurore se donne encore dans des lits français. Au cœur qui cogne au corps, est-ce l'amour ou la mort qui les garde enlacés? Ils ont au fond des yeux des rêves que je rêvais fort pour que tu restes encore. Quand l'aube nous gardait tous les deux, et je reviens. Bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps.
Alors, excusez-moi pour le petit blanc, j'en suis désolé, mais on va prendre la suite de l'émission, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous parler de William Scheller, l'émission, le morceau qu'on vient d'entendre à l'instant, qui est donc un morceau qui s'appelle « Les filles de l'aurore », qu'on avait diffusé déjà quand Antoine Idier était venu donc pour ses émissions consacrées au lion gay des années 70, gay et lesbien des années 70. Alors, c'est un titre de William Scheller qui s'appelle « Les filles de l'aurore ». Et qui est, une légende urbaine tenace veut que ce morceau ait été composé par William Scheller. Il aurait été inspiré à la sortie d'une discothèque fameuse des années 70 et 80 à Lyon, qui était la Petite Taverne. Donc il évoque effectivement le quartier Saint-Jean dans l'émission, et donc les paroles de la chanson auraient été écrites par lui suite donc à une soirée à la Petite Taverne. Alors nul ne sait si c'est vrai ou faux, mais on avait passé ce morceau parce que la légende est insistante à ce sujet. Alors suite, deuxième partie maintenant de cette émission consacrée au lion gay et lesbien des années 70 avec donc Antoine Idier.
Et nous voici de retour, toujours avec Antoine. Donc Antoine, on a parlé un petit peu donc de l'ambiance festive des années 70, mais avec le cercle, on a évoqué justement les rapports un peu difficiles avec la police. Alors d'abord, il faudrait rappeler une chose importante quand même, c'est le contexte législatif de l'époque, puisqu'on était toujours sous le coup de certaines lois de Vichy qui n'avaient pas été abrogées. Il y avait une différence énorme entre relations hétéro et relations homosexuelles. En fait, la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles était 18 ans et elle était de 16 ans pour les hétéros.
Voilà, parce que comme je rappelais en début d'émission, ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité a lieu donc en 1982 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Il y a une pré-dépénalisation qui a lieu déjà en 1980, puisque en fait dans le code pénal, deux alinéas réprimaient plus particulièrement les relations homosexuelles. Un premier alinéa est supprimé en 1980 par la droite, donc ouais. sous Valéry Giscard d'Estaing, quelqu'un qui avait entre 15 ans et 18 ans pouvait avoir des relations avec quelqu'un qui avait 22 ans, alors que pour un homosexuel, ce n'était possible qu'à partir de 18 ans. On peut rappeler aussi le célèbre amendement Mirguet adopté en juillet 1960, qui fait de l'homosexualité un fléau social, ouais, aux côtés de l'alcoolisme, ouais, et de la prostitution.
Pour dire que les rapports avec la police pouvaient être assez difficiles, y compris pour les boîtes de nuit, ou les autres lieux, les bars, etc. Parce qu'en fait, la police se servait de ça, de la protection des mineurs, en fait, pour faire des contrôles inopinés dans les boîtes, contrôles d'identité, etc. Qui n'aboutissaient pas toujours à des arrestations, mais qui étaient là quand même pour montrer que vous êtes homo, vous êtes dans un lieu, certes, qui vous est réservé, mais quand même, ayez conscience que vous n'êtes pas, aux yeux de la loi, dans une légalité totale.
Voilà, il y avait des centres de police, je ne sais pas à quelle fréquence, très difficile de le dire, mais en tout cas, qui marquaient profondément les gens qui étaient confrontés, à la fois dans les bars, dans les boîtes, et puis on peut aussi, on n'en a pas parlé jusque-là, dans ce qu'on appelle les tasses, c'est-à-dire les pissotières, ouais, les toilettes publiques, qui étaient des lieux de drague homosexuelle, où la police débarquait, faisait éventuellement juste des contrôles d'identité, raflait tout le monde pour faire des contrôles d'identité au poste de police. Alors moi, je fais l'hypothèse qu'il y a deux raisons qui justifient ces descentes de police. D'une part, une volonté de réguler l'homosexualité, ce qu'il n'est pas possible d'interdire ou d'éradiquer, même pour prendre des termes plus forts, l'homosexualité, mais que c'est toute la répression plus généralement, donc les descentes de police, visent à réguler l'homosexualité, la bannir de l'espace public, la contenir, donc éviter par exemple que les homosexuels draguent autour des toilettes publiques, et en utilisant l'argument de la protection des mineurs, qui est l'argument qui est très vieux, qui est utilisé dès 1945 et qui perdure au moment des débats sur la dépénalisation 1980-1982, ouais, de dire il faut avoir des lois répressives envers l'homosexualité parce qu'elles représentent un danger pour la jeunesse. Il faut empêcher les homosexuels de corrompre les mineurs. Alors, quand on reprend les débats législatifs, on trouve des termes horribles. Du fait de la présence de mineurs, notamment dans ces boîtes de nuit, déjà parce que tu vois, c'est difficile de savoir quand on est videur si la personne en face de soi a 17 ans et 11 mois, ou 18 ans et 2 semaines, voire quelqu'un de 19 ans qui fait beaucoup plus jeune, ou quelqu'un de 16 ans qui fait beaucoup plus vieux. C'est donc à la fois pour les videurs difficile de savoir. Aussi, je pense que certains ne rechignaient pas à laisser entrer des mineurs parce que ça pouvait aussi attirer une clientèle de savoir qu'il y avait des gens jeunes dans ces boîtes de nuit. Et donc c'est un argument utilisé par la police, et je fais l'hypothèse, sans pouvoir toujours le montrer de manière très précise, mais que cet argument-là est beaucoup plus utilisé pour réprimer, comme prétexte, pour réprimer les boîtes ou bars homosexuels, pour les bars ou boîtes classiques. Mais j'ai aussi une autre interrogation, et peut-être que tu voulais qu'on en vienne là, sur les rapports avec la police sont aussi très compliqués avec les patrons de bars,
oui,
et de boîtes.
Alors, qu'il y a un patron d'un établissement expliquait que par rapport à la police, il avait plutôt intérêt à fournir des renseignements que les policiers pouvaient lui demander, sans quoi il pouvait subir des pressions de la part de la police, par exemple sous forme de contrôle répété d'identité, ce qui est évidemment le genre de contrôle d'identité qui nuit à un établissement, parce que les clients fuient ce genre d'établissement qui reçoivent la police un jour sur deux. Alors si le mec, le patron est collaborateur entre guillemets avec la police, fournir les renseignements qu'on lui demande, il a plus ou moins la paix. Il y avait un peu ce deal-là avec la police.
Voilà, après, ce qui est difficile à voir, c'est en quoi ça concerne uniquement la vie gay, parce qu'on sait, quand on s'intéresse au milieu de la nuit, que la police aime bien avoir le contrôle sur le milieu de la nuit, parce que ça lui permet de repérer des individus louches, qu'il y a une certaine collusion entre bars. La police connaît très bien les patrons des établissements, mais en tout cas, moi, en travaillant spécifiquement sur ces établissements homosexuels, j'ai montré que les policiers connaissaient très très bien les patrons de boîtes, et en effet, leur demandaient des renseignements, voire pour certains les racketaient apparemment. Il faut pas oublier que dans les années 70 à Lyon, il y a plusieurs scandales, notamment tout un mouvement de mouvement de prostituées de qui se révolte à l'église, autour de l'église Saint-Nizier, en 1975, il me semble, 1976. C'est pour protester aussi contre le racketage dont les prostituées sont victimes par la police. Il y a plusieurs affaires aussi où on découvre que finalement le milieu policier est très lié au milieu du banditisme, que certains policiers n'hésitent pas à racketter des établissements, notamment des hôtels de passe, voire certains policiers sont eux-mêmes des proxénètes. Et effectivement, certains patrons me disent, oui, moi je me suis fait racketter par la police, pas par des bandits, pas par des petites frappes, mais par la police, ou la police, en échange de renseignements, me laissait tranquille. Et là, on peut faire l'hypothèse que même si ces pratiques ne touchaient pas uniquement les bars ou boîtes homosexuelles, le fait que ça soit des bars et boîtes homosexuelles, elles étaient d'autant plus soumises à la menace policière, et donc ces pressions avaient lieu avec d'autant plus de force.
Voilà, du fait que les gens qui en plus fréquentant ces lieux sont des gens qui avaient une deux vies, en fait. Ils avaient la vie dans les boîtes, dans les bars, etc. Et puis ils avaient leur vie quotidienne qui n'était pas visiblement homosexuelle. Ils étaient homosexuels clandestins et allaient dans ces boîtes, ces bars spécifiquement pour vivre leur vie.
On m'a raconté par exemple la triste histoire de quelqu'un qui s'appelait Grégoire et qui a été arrêté un soir à l'Epi Bar, qui apparemment était, parce qu'on m'en a dit, était clerc de notaire. Ouais. Et donc il a arrêté, il a protesté. La police a appelé son patron, qui l'a obligé à donner sa démission. Et Grégoire s'est suicidé la suite de son arrestation.
Alors, par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais aussi rebondir, parce que c'est très intéressant, c'est le milieu. Tu as évoqué quand même le milieu. Dans les années 70, il y avait un milieu à Lyon. Et c'était quand même un milieu local très actif, qui est souvent représenté par le gang des Lyonnais. On parle souvent du gang des Lyonnais.
Un gang de mafieux, on peut dire, bandits, parce que mafieux, ça évoque peut-être un peu trop les mafias italiennes tentaculaires, mais des groupes de truands qui font un certain nombre de coups. Et tu parles du gang des Lyonnais, qui est effectivement le plus connu, qui braque des casinos, qui amaille à partir avec la justice. Et le juge Renaud, qui était le juge d'instruction chargé d'enquêter sur ce gang des Lyonnais, a même été assassiné par quelqu'un lié au gang des Lyonnais. Donc ce milieu est très présent déjà à Lyon. Il a main mise sur la nuit, parce que la nuit, le milieu de la nuit a toujours été une source de revenus, a toujours été très lucratif, et notamment sur le milieu homosexuel. Alors il paraîtrait que certaines boîtes étaient contrôlées par le milieu, ce qui reste à vérifier. Est-ce que c'était vraiment le milieu? Est-ce que
il y avait beaucoup de rumeurs,
un patron un peu bizarre. Mais en tout cas, certains disent avoir été racketés par le milieu. Ils disent aussi que les ennuis qu'ils ont eu avec la police étaient le fait de la collusion entre la police et le milieu, ouais. que notamment la Petite Taverne, par exemple, explose en 1979. Une bonbonne de gaz est laissée dans la Petite Taverne, mmh. avec un incendie, alors que la Petite Taverne est fermée. Donc il n'y a aucun blessé, heureusement. Mais c'est clairement parce que le patron avait été racketté, parce que le patron avait refusé de payer, que ce milieu avait fait sauter la Petite Taverne.
On m'a beaucoup parlé du Milord, qui était considéré comme la boîte du milieu lyonnais, entre guillemets. Attention, aucune preuve n'a jamais été établie à ce sujet. Le cercle a beaucoup dit, le patron du cercle a beaucoup dit que s'il recevait aussi souvent la police, c'était parce que il y avait des jalousies de la part d'autres établissements.
Alors ça, c'est très compliqué après de démêler comme ça.
Oui, c'est très difficile.
Mais en effet, on peut voir une sorte de triangle explicatif avec d'un côté la police, de l'autre côté ce milieu, et de l'autre côté les jalousies entre patrons. Dans le cas du cercle, donc on a dit c'était une association, donc il ne payait aucune taxe, aucun impôt, puisqu'il n'était pas censé déclarer ses bénéfices. Donc on comprend, en tout cas ça peut paraître logique que des patrons jaloux, excédés, que leur concurrent se fasse de l'argent et aussi décider de lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais. À l'époque, c'était assez clair entre eux, tous les coups étaient permis. Et après, la question, c'est de savoir aussi comment par exemple un patron qui s'entendait plutôt bien avec la police pouvait utiliser ses liens avec la police pour causer des soucis à un autre patron de boîte.
Pluriel, 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 pluriel.
On a évoqué les tasses. Les tasses aussi. Alors, les tasses ont disparu maintenant. Ce qu'on appelait les tasses à l'époque, c'était les édicules, où lorsqu'on avait une petite envie, on allait, on se réfugiait pour faire pipi. Hein, c'est les pissotières, voilà. Ou les Vespasiennes.
Le lieu de drague. Et c'était pas seulement des années 70, mais on a beaucoup pensé que, apparemment, depuis des temps immémoriaux, ou au moins depuis le 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, des lieux de rencontre, parce que finalement. Si on est pris, quoi de plus naturel que d'être dans une pissotière, en même temps, c'est assez facile de rencontrer quelqu'un. On tourne autour de la pissotière, on rentre, on voit quelqu'un d'autre qui tourne, on lui jette un regard. C'est assez, assez facile.
À Lyon, les pissotières étaient. Il y en avait beaucoup le long des quais du Rhône, le long des quais de Saône. Pas seulement, il y avait les habitués.
Du parc de la Tête d'Or à Gerland, donc aujourd'hui où il y a les berges du Rhône, il y avait une série de pissotières avec des noms et des surnoms. Il y avait par exemple celle qui est au Gagneur en face du temple protestant, s'appelait le Temple, dans le vocabulaire, dans l'argot finalement homosexuel lyonnais. Il y avait Notre-Dame d'Alger à la Guillotière. Un peu plus haut, il y avait la Lafon, parce qu'elle était à côté d'une entreprise de cars qui s'appelait les cars Lafon. Effectivement, ces lieux étaient des lieux de drague, en partie fréquentés par des gens qui allaient ensuite à la Petite Taverne ou au Cercle, mais aussi fréquenté par des gens qui se déclaraient pas comme homosexuels, mais qui avaient des relations avec des hommes, notamment des hommes mariés, qui venaient là discrètement pour rencontrer des partenaires. C'était aussi un lieu où les gens jeunes pouvaient faire un premier pas dans ce qu'on appelle les sous-cultures ou les subcultures gays, et de là, on leur indiquait par exemple d'autres lieux. On m'a raconté, quelqu'un, il m'a dit, moi j'ai découvert la Petite Taverne dans une tasse. Quelqu'un m'a dit, si tu veux aller dans une boîte, va à la Petite Taverne. C'était aussi un lieu où on pouvait tout simplement se faire des amis.
un lieu de sociabilité.
On me l'a dit aussi.
Sociabilité.
Mais il faut imaginer qu'autour des pissotières, certains soirs, il pouvait y avoir 20, 30 personnes qui se rencontraient, qui discutaient, qui partaient ensemble.
Par contre, c'était dangereux.
Ça offrait une prise très importante aux casseurs de PD.
Il y avait en fait deux aspects. Il y avait la police qui, sous prétexte encore de protection des mineurs, aussi pour lutter contre l'attentat à la pudeur, le trouble à l'ordre public, sous ces prétextes-là, pouvait investir les pissotières, arrêter les gens. Et là, les gens souvent étaient arrêtés, faisaient des gardes à vue de 24 heures, etc. C'était pas triste. Et puis, effectivement, il y avait les truqueurs et les casseurs de PD. Alors, les casseurs de PD dans le sport national étaient à l'époque d'aller sur les quais à Lyon. Les truqueurs, c'était encore pire, puisque c'était des gens qui faisaient semblant d'être, qui aguichaient la personne, l'emmenaient dans l'édicule et puis souvent lui cassaient la figure, souvent dans le but de lui extorquer de l'argent, etc., lui prendre ses bijoux, sa montre, etc. Et puis parfois aussi, éventuellement, de le faire chanter, récupérer ses papiers, puis de le faire chanter. Voilà. Donc c'était quand même une époque un peu glauque. On en a un peu sorti.
Qui est amusant, c'est que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en gardent aussi un souvenir ému, en parlent avec nos. aujourd'hui, certains glorifient même l'État, ce qui est un peu étonnant. Des fois, quand on retrouve des textes militants, les gens décrivent la sexualité d'État, c'est des pissotières, comme sordide. Et aujourd'hui, d'autres la glorifient en y associant les noms de l'écrivain Guy Hockenheim, de l'écrivain Jean Genet, de Pierre Paolo Pasolini, aussi parce que c'était l'époque de leur jeunesse, aussi parce que c'est une époque révolue.
Le monde associatif et monde commercial était plutôt... Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les deux.
Non. Tu me permets, j'aimerais revenir sur l'expression monde associatif ou milieu associatif, parce qu'à mon avis, elle est peut-être légèrement incorrecte, dans le sens où c'est une expression qui a du sens aujourd'hui, mais qui n'en avait peut-être pas dans la période des années 1970, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle d'un monde associatif, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il existe un monde associatif LGBT à Lyon, on fait référence à un certain nombre d'associations, de tout type d'associations, aussi bien sportives que festives, que du travail sur la lutte contre le sida ou des associations plus politiques, et qui forment véritablement un milieu, dans le sens où chaque association qui a un but bien précis connaît les autres associations, voire travaille avec les autres associations, organise des événements communs, se retrouve dans un certain nombre d'instances. Par exemple, les associations ont des représentants, il me semble, à la LGP pour organiser les Gay Pride et un ensemble d'autres événements. Donc aujourd'hui, il y a bien un milieu associatif dans ce sens-là, alors que je pense que dans les années 70, il n'y avait pas vraiment de milieu associatif, mais plutôt quelques groupes militants particulièrement politisés. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais qui ne forment pas, strictement parlé, un milieu. Voilà, pour le choix du terme. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, en effet, ces groupes militants sont particulièrement distincts du monde commercial, si on peut dire, c'est-à-dire du monde des boîtes de nuit et des bars, dans le sens où déjà les gens qui sont dans ces groupes militants ne vont pas, ou très très peu, dans les bars ou dans les boîtes, et surtout ont un regard très méfiant envers ces bars et ces boîtes qui sont vus comme déjà des lieux où vont les gens apolitiques, les gens qui ne sont pas politisés, les gens qui ne portent pas un discours politique sur l'homosexualité, voire qui sont des lieux de normalisation, des ghettos. On aura sans doute l'occasion aussi de revenir sur le terme de ghetto, qui est un terme très présent dans le discours militant. Donc oui, c'est deux mondes à part, on peut dire, sans aucun souci.
D'accord. Donc en fait, effectivement, on reviendra là-dessus tout à l'heure. En revanche, moi, ce que j'ai constaté un petit peu, d'après les études que tu as faites, Antoine, puisque je me réfère à ton mémoire, donc qui s'appelle Dissidence Rose, sur les années 70 à Lyon. Et en fait, ces groupes militants sont apparus plutôt dans la dernière décennie des années 70. Alors, il y avait quand même Arcadie qui était représenté à Lyon. Alors, Arcadie, je rappelle très rapidement ce que c'était, une association qui est née à la fin de la guerre, après-guerre, au début des années 50, je crois que c'est 52.
54,
merci. Et donc, qui a été fondée par André Baudry, qui était lui-même un ancien séminariste d'ailleurs. Et Arcadie avait à Lyon une représentation déjà au début des années 70, peut-être même avant.
Oui, dès les années, je n'ai plus la date exacte en tête, mais dès les années 60, Arcadie, qui est avant tout un mouvement parisien, dans le sens où les membres sont à Paris, le mouvement a un club à Paris où on peut se retrouver pour danser, et un certain nombre de choses. Donc un mouvement essentiellement parisien, mais qui a des délégations régionales dans un certain nombre de villes de France, dont Lyon, qui a une délégation dès les années 60. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme tu le disais, Arcadie naît dans les années 50, et les années 50, c'est quand même un contexte très très particulier, de très forte répression de l'homosexualité, une très forte opprobre sociale, de stigmatisation de l'homosexualité. Et donc pour les gens qui fréquentent et qui créent Arcadie est, dans les années 50, les années 60, un lieu très important, parce que c'est un endroit où on peut se retrouver entre homosexuels plutôt de sexe masculin, qui offre un véritable espace de liberté, où on peut parler d'homosexualité. Bon, Arcadie préfère le terme d'homophilie, mais en tout cas, l'association joue un réel rôle. Vu d'aujourd'hui, Arcadie peut paraître comme un mouvement très réactionnaire, très conservateur, ou en tout cas un peu ridicule. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans les années 70. Les militants dont on va parler aujourd'hui considèrent Arcadie comme un groupe réactionnaire, un groupe conservateur, et ont réussi à laisser derrière eux cette vision-là des choses. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 50 et 60, Arcadie est quelque chose de finalement relativement progressiste. C'est le seul et le premier mouvement homosexuel en France dans ces années-là, et qui, pour les gens qui y sont, représente un véritable espace de liberté, quelque chose qui permet déjà de respirer, de retrouver des gens comme eux et d'avoir des activités.
Mais Arcadie avait aussi une publication d'ailleurs assez régulière.
Oui, un mensuel, une revue
sur abonnement.
Arcadie, oui.
Voilà, qui était distribuée sur abonnement. Donc on suppose qu'à Lyon, il y avait aussi des abonnés. En tout cas, il y avait un délégué régional à Lyon.
Oui, il y en a eu plusieurs, un délégué dans les années 60, puis dans les années 70. D'ailleurs, on peut souligner que le délégué des années 70, qui se fâche d'ailleurs avec André Baudry, le fondateur d'Arcadie, crée une association lyonnaise qui existe toujours, qui est Aris. Il s'appelle Michel Branchu, et quitte Arcadie, me semble, en 1979, et dans la foulée, Aris, oui. Aris est créé.
Arcadie, donc... ne va pas être la seule association à Lyon dans les années 70, puisque en fait, il y a déjà eu une tentative au début des années 70, je crois, de création d'un phare local, on dira.
On peut peut-être revenir sur ce qu'est le phare.
Oui, bien sûr.
Puisqu'on parlait de remettre les choses dans le contexte en soulignant ce qu'est Arcadie dans les années 50 et années 60, il faut souligner aussi, à l'inverse, que sont les années 70, qui sont un mouvement de transformation radicale d'un certain nombre de mouvements du militantisme politique en général. Bon, un certain nombre d'historiens et de sociologues ont travaillé sur 1968 et sur ce qu'ils ont appelé aussi les années 68, qui désigne en fait la décennie qui s'ouvre à partir de 1968 jusqu'à la fin des années 70, voire jusqu'au début des années 80 et 81 avec l'élection de François Mitterrand, pour souligner que durant toute cette décennie, dans la foulée de mai 68, se fonde un ensemble de mouvement de contestation de tout, de contestation tout azimut, de contestation de tous les pouvoirs, de toute autorité, qui se répercute dans un ensemble de domaines. C'est notamment les mouvements féministes, avec les femmes qui protestent contre la domination dont elles sont victimes.
Le fameux MLF, par exemple.
Voilà, avec la création du mouvement Libération des femmes. C'est, par exemple, les mouvements écologistes, les mouvements antinucléaires, l'explosion des mouvements pacifistes, les mouvements d'immigrés qui se développent aussi dans ces années 70, et les mouvements homosexuels, les mouvements, on va dire, de politisation de la sexualité, avec notamment à Paris, le phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui se crée en 1971 dans le sillage du mouvement féministe, puisque les fondateurs du phare sont issus du mouvement féministe. Et ce qui est fondamental pour comprendre la décennie, pour comprendre ce qu'est le phare, c'est qu'il s'agit véritablement d'une politisation de la sexualité, c'est-à-dire que les militants du phare ne veulent pas créer une sorte de club où se retrouver comme l'était Arcadie, mais veulent véritablement dynamiter la société, et notamment dynamiter les cadres sexuels de la société, la manière dont la sexualité est construite et la manière dont l'homosexualité est perçue. Et le phare, qui est révolutionnaire, comme son nom l'indique, donc qui s'inscrit en plus dans ces mouvements d'extrême gauche, le phare va donner naissance à un ensemble de mouvements militants homosexuels tout à fait nouveaux et tout à fait radicaux. Le phare en lui-même dure très peu de temps, l'expérience du phare dure 2 ans à tout casser de réunions aux Beaux-Arts à Paris, mais il lègue un véritable héritage derrière lui, à la fois sous la forme de textes. Par exemple, il y a le fameux rapport sur la normalité, qui est une succession de textes. Il y a un numéro d'une revue Recherche qui s'appelle 3 milliards de pervers. Et ces textes-là, ces idées, ces manières de concevoir la politique et la sexualité vont irriguer un certain nombre de mouvements des années 70, qu'on va retrouver notamment à Lyon. Des militants de gauche, puisque les militants dont on va parler sont essentiellement des militants de gauche, essaie de créer un phare sans succès, et le véritable mouvement ou mouvement homosexuel du moins masculin prend naissance en 1976, et c'est le GLH, le groupe de libération homosexuelle. Il faut savoir qu'à peu près au même moment dans toute la France se crée un certain nombre de ces GLH, à Paris, mais dans un certain nombre de villes, à Aix-en-Provence, à Marseille un peu plus tard, je sais pas, à Dijon, un peu partout, et donc ils s'en créent un à Lyon en 1976. Il faut savoir aussi ce qu'est Lyon dans les années 70, ou notamment une partie de Lyon, qui sont les pentes de la Croix-Rousse, notamment les pentes de la Croix-Rousse à Lyon dans les 70, c'est un espace, on va dire, alternatif, où s'inventent un certain nombre de mouvements politiques en tout genre, issus de l'extrême gauche, et le groupe de libération homosexuelle et le groupe de lesbiennes aussi, dans une moindre mesure, appartiennent totalement à cet univers-là. On le voit très simplement en regardant les parcours militants des membres. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé davantage au groupe de libération homosexuelle qu'au groupe de lesbiennes, mais les membres du groupe de libération homosexuelle viennent soit du maoïsme, ou en tout cas se sentent proches du maoïsme. L'un d'entre eux, Jean-Paul, par exemple, était proche du Secours Rouge, qui est une association fondée pour venir en aide aux prisonniers politiques maoïstes. D'autres viennent de la Ligue, l'ancêtre de la Ligue communiste révolutionnaire. Un autre est plutôt anarchiste et vient d'un certain nombre de mouvements anarchistes, type, ou plus libertaire qu'anarchiste, type contestation Larzac, mouvement contre la remilitarisation. Et tous ces gens-là ne viennent pas du même groupe militant, mais sont tous dans cet univers militant de contestation, tout azimut, comme je disais tout à l'heure. Et donc, cet engagement au sein du militantisme homosexuel va de pair avec cet engagement politique. On va dire leur homosexualité est une manière de faire de la politique et de contester la société, pas seulement sur les questions de sexualité.
Et puis le GLH permettait aussi peut-être à des personnes un peu isolées de savoir qu'il existait un groupe de libération homosexuelle où on pouvait s'exprimer, des débats au cinéma où on pouvait aller parler, voir des œuvres qui n'étaient pas nécessairement diffusées de partout. Donc c'était une ouverture aussi sur les homos eux-mêmes, qui étaient souvent la plupart des gens, des homos de l'époque, encore maintenant dans beaucoup de cas, mais à l'époque encore plus, c'était des homos dans le placard, on va dire. Donc c'était une façon de sortir, s'extérioriser autrement que par le simple réseau commercial dont nous avions déjà
mais
parlé.
Pour les militants, ça ne doit pas être seulement ça. Ça ne doit pas seulement être des gens isolés qui viennent retrouver leurs semblables et parler entre eux, mais déboucher sur une prise de position politique et sur une contestation de nouveau radicale.
D'accord, donc tout est effectivement
lié. Mais les membres eux-mêmes du GLH le reconnaissent. Mmh. L'action première du GLH a d'abord été aussi sur eux de pouvoir exprimer leur sexualité, parler de leur sexualité, notamment parce que les mouvements de gauche de l'époque sont des lieux... Enfin, le terme homophobe n'est pas exact, parce que c'est un peu anachronique, puisqu'à l'époque, on parlait pas d'homophobie, mais dans les mouvements gauchistes, on ne parle pas d'homosexualité. C'est quelque chose de tabou. Et pas seulement... Bon, par exemple, le Parti communiste était l'un des partis de gauche les plus rigides sur la question, mais l'ensemble des mouvements gauchistes, la sexualité en est exclue. Et donc, pour ces militants, c'est enfin trouver un endroit où ils peuvent parler librement de leur sexualité.
À Lyon, le GLH a voulu participer au défilé en compagnie du groupe de lesbiennes de Lyon, d'ailleurs aussi, avec des banderoles PD et lesbiennes en lutte. Mais il y a eu quand même une certaine hostilité de la CGT. Alors, hostilité peut-elle se comprendre, parce que le défilé du 1er mai, c'est aussi lié au travail, aux conditions de travail, etc. Est-ce que c'était le lieu approprié?
Ce qui est amusant, en tout cas, c'est que si on regarde les différents GLH dans les différentes villes de France, il y a toujours un moment ou un autre cette volonté des groupes de libération homosexuelle de participer au défilé du 1er mai. Et ils le font, donc à Lyon, c'est le 1er mai 1979, tu disais, avec cette banderole PD lesbienne en lutte, en plus que je crois une banderole rose brodée en doré, donc
très flashy.
Voilà, ouais. Quelque chose assez étonnant dans le défilé du 1er mai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'époque, quand on est de gauche, on ne peut pas imaginer ne pas participer au défilé du 1er mai, qui est la fête du travail, qui est un des grands rassemblements de la gauche. Et donc, pour ces militants qui sont des gens de gauche, c'est normal de participer au défilé du 1er mai. Et en même temps, pour eux, faire irruption dans ce défilé, c'est aussi une manière d'imposer de nouveau l'homosexualité dans le débat politique, et de dire aux organisations de gauche, vous ne pourrez pas vous passer des homosexuels, vous ne pourrez pas vous passer de la question de l'homosexualité, vous ne voulez peut-être pas que ce débat-là ait lieu, mais nous forçons à ce qu'il ait lieu, nous faisons de nouveau faire irruption au thème homosexuel à l'intérieur des mouvements de gauche. Alors après, c'est vrai que dans chaque ville, il y a toujours des réticences. je sais pas si c'est plus ou moins la légende qui parle des gros bras à chaque fois de la CGT ou des syndicalistes qui sont là, mais que faites-vous, que vous n'avez rien à faire ici. Mais c'est aussi une manière pour les militants homosexuels de les forcer à les accepter et à prendre en compte la situation de l'homosexualité.
Ouais. Alors le GLH a une durée de vie assez courte, mais quand même avec des actions, on a parlé de plusieurs d'entre elles, on a parlé de la revue Interlope, oui. Donc, qui était diffusée par le GLH. Ils ont organisé aussi une fête qui est restée un peu célèbre dans les annales du militantisme lyonnais, puisqu'il s'agit d'une fête qui s'appelait Dissidence Rose, je crois.
C'est là que j'ai pris le titre mon travail. Lyon, la Dissidence Rose, voilà. Donc le titre de mes recherches.
C'était au centre Pierre Valdo.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
On va évoquer le groupe de lesbiennes de Lyon, parce que il y a eu un groupe de lesbiennes de Lyon aussi dans les années 70, qui, je suppose, était un groupe issu des mouvements féministes de l'époque.
Oui, c'est au sein du Centre des Femmes, qui est l'expression du mouvement des femmes à Lyon, que se crée, il me semble, à partir de 1976, également un groupe de lesbiennes, qui est d'abord un groupe assez informel, puisque une ou deux femmes un jour distribuent des textes en disant ça serait bien aussi qu'on discute de la situation des lesbiennes. Et puis le groupe en petit forme pour devenir véritablement un groupe de lesbiennes qui lui aussi est actif sur 3-4 ans de 1976 à 1980-1981 et qui mène aussi un certain nombre d'actions. Bah, tu le disais tout à l'heure, lors du défilé du 1er mai 1979, le tract et la banderole sont co-signés du groupe de libération homosexuelle de Lyon et du groupe de lesbiennes de Lyon. D'ailleurs, tu rappelais ce qui est l'inscription sur la banderole qui était PD et lesbiennes en lutte. Donc ça revient déjà sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que c'est des groupes dont le premier but est la lutte. Et c'est le cas aussi pour ce groupe de lesbiennes, qui est un groupe très politisé, qui vient du mouvement féministe.
D'accord. Alors par contre, ce qui est à noter, comme c'est le cas un petit peu partout, le groupe de lesbiennes se crée indépendamment du GLH.
Bon, les groupes de libération homosexuelle et le groupe de lesbiennes se créent chacun séparément, mais essayent à plusieurs reprises de, on va dire, travailler ensemble, d'avoir des actions communes. Et ça, c'est le groupe de lesbiennes qui le dit. Ils se rendent compte très vite qu'on n'a pas les mêmes intérêts, en fait. Et on trouve dans la revue de ce groupe de lesbiennes, la revue qui s'appelle Quand les femmes s'aiment, à un moment, une phrase qui dit oui, le groupe de libération homosexuelle a une fixation sur la bite. Et effectivement, les lesbiennes, ça leur est totalement étranger. Et de même, le groupe de libération homosexuelle se centre sur le vécu homosexuel masculin, notamment la drague dans les pissotières, les toilettes publiques. Là encore, c'est quelque chose qui ne parle pas aux lesbiennes et qui disent que dans ce groupe de libération homosexuelle, il n'y a que des questions finalement masculines et donc elles ne vont pas y aller puisque les thèmes qu'elles voudraient voir développés sont totalement absents.
Elles ont organisé une fête sur une péniche notamment. C'était le 12 mai 1979.
Ça doit être ça.
Voilà.
Mais de nouveau, c'est comme pour le GLH, un des fonctions essentielles de ce groupe, c'est d'abord de se regrouper pour échanger sur son vécu, pour échanger sur ce qu'est être lesbienne dans ces années 70. Donc des réunions ont lieu très régulièrement au centre des femmes et des événements festifs comme cette fête ont lieu donc en 1979.
Ce qui est intéressant à noter également, et ce qui est commun aux deux, c'est leur rejet, on peut le dire, du ghetto. Le GLH, aussi bien que le groupe des lesbiennes, sont hostiles à ce monde-là, qu'ils considèrent comme un peu récupérateur et finalement réducteur
et normalisateur, puisque pour ces groupes-là le but premier est de faire de la politique à partir de l'homosexualité, mais bien de faire de la politique, alors que ce qu'ils appellent le ghetto, et le terme ghetto se retrouve aussi bien dans les écrits lesbiens que les écrits homosexuels masculins. D'ailleurs, tous les deux ont des termes un peu méprisants. Les lesbiennes, par exemple, se moquent des lesbiennes des boîtes, tandis que le GLH, lui, se moque, par exemple, des PD des saunas. Donc, ce sont des militants de gauche donc, qui ont une méfiance envers les patrons de ces établissements, dont le but, leur semble-t-il, est de se faire de l'argent sur le dos des homosexuels en exploitant une certaine forme de misère sexuelle. C'est-à-dire, finalement, pour rencontrer un partenaire, il faut aller dans une boîte ou dans un sauna. Certains n'ont pas d'autre choix que d'aller dans la boîte ou dans le sauna, donc c'est des bénéfices assurés pour le patron. Et puis surtout, il y a une crainte d'une normalisation ou d'une américanisation pour certains, c'est-à-dire que ces boîtes et ces saunas seraient un moyen du pouvoir de concentrer les homosexuels en un endroit et d'assigner une identité, que ce soit une identité, ou ne serait-ce qu'une identité physique, en imposant même habillement, ou des choses comme ça. Mais donc ces lieux sont vécus comme normalisateurs. Et c'est en ce sens-là que les deux groupes les contestent. Il y a des grands débats, surtout chez les homosexuels masculins, à propos des tasses dont on a déjà parlé, oui. Donc les pissotières, pour savoir est-ce que finalement ça est aussi un ghetto, dans le sens où on est obligé d'aller dans les tasses pour avoir des relations sexuelles parce qu'il n'y a pas d'autre endroit et parce qu'on est obligé de se cacher, ou au contraire la tasse est pas finalement quelque chose de subversif, puisque dans ce cas-là l'homosexualité, la relation homosexuelle n'est pas confinée dans un espace fermé qui est une boîte, mais qui est un espace public, un espace ouvert, et où dans ce cas-là l'homosexualité serait partout quand elle se pratique dans les tasses, alors que justement quand elle se pratique dans un sauna, elle est dans un coin en marge pour qu'on ne la voit pas.
J'ai noté avec un certain amusement que c'est les gens qui fréquentaient les tasses avaient demandé un petit peu au GLH de faire un peu l'ordre, de jouer le rôle d'un service d'ordre pour les défendre contre les casseurs de PD. Donc c'est assez amusant de constater que le GLH pouvait aussi être vu comme une sorte de super police des gays pour les aider.
Mais ce qui est important de noter, c'est que le GLH refuse.
Oui, il refuse.
Justement en disant, mais nous ne sommes pas là pour faire de l'assistance, mais nous sommes là pour faire de la politique et pour changer la société. Il y a le même débat, à un moment certains proposent d'ouvrir un gay center sur le modèle de ce qui se fait dans des pays
anglo-saxons,
ce qui provoque de très vifs débats à l'intérieur du GLH. Et le principal motif d'opposition, c'est que nous ne faisons pas de l'assistance, nous faisons de la politique, et ouvrir un centre gay, ça serait affirmer, ça serait qu'il y a une identité gay, et pour ces militants là la question de l'identité est une question très sensible, puisque pour eux une identité c'est vécu comme normalisateur et donc comme oppresseur ou oppressif. De nouveau,
ces groupes ont eu une existence assez relativement éphémère, intense mais éphémère, que ce soit le groupe de lesbiennes Lyon ou le GLH.
Mais oui, ces groupes ont duré à peine 3-4 ans, ne serait-ce que déjà parce que les militants se fatiguent au bout d'un moment, et puis la situation de l'homosexualité change pas mal à la fin des années 70, notamment les groupes plus politiques, plus théoriques cèdent un peu le pas au niveau national, notamment avec l'apparition du QAR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui lui vise beaucoup moins à élaborer une réflexion politique et théorique qu'à demander un certain nombre de choses concrètes, en particulier l'abrogation des législations discriminatoires. Mais ces groupes, oui, ont eu une existence éphémère, et en même temps sur la courte période où ils ont été présents, ils ont été particulièrement actifs quand on regarde tout ce qu'ils ont fait.
Antoine, je te remercie d'être là.
Merci de l'invitation.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Darum wird einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt,
dass es nie für mich ein Glück mehr geht. Ach, das wär schwer, wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.